France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Donald Trump avait promis de mettre fin à la guerre en 24 heures en Ukraine s'il était réélu. Objectif évidemment non tenu depuis son retour à la Maison Blanche, et ce matin son secrétaire d'État a même laissé entendre que les États-Unis n'allaient pas poursuivre cette entreprise pendant des semaines. Par ailleurs, la Chine fournit-elle des armes à la Russie? C'est ce qu'affirme le président Zelensky. Pékin dément. On évoquera également cette relation prétendument spéciale entre les États-Unis et l'Italie. Y a-t-il une convergence idéologique? On en parlera avec notre invité. Et puis l'actualité en France, c'est d'abord cette question sous forme de menace. Y aura-t-il des trains pour circuler le pont du 8 mai? Enfin, on tâchera de comprendre cette pétition rarissime lancée hier par des centaines d'auteurs et autrices de bandes dessinées qui menacent de boycotter le prochain festival d'Angoulême. Comment infléchir le cours des négociations tout en accentuant la pression sur la Russie? Parce que les négociations lancées unilatéralement par Washington pour une trêve dans le conflit ukrainien piétinent, mais aussi parce que les Européens entendent bien faire entendre leur voix. Deux premières discussions étaient organisées hier à Paris et déjà un nouveau round de pourparlers a été fixé à la semaine prochaine à Londres. Manière de préserver au moins l'apparence d'un front uni, car même si toutes les parties ont salué des échanges positifs, constructifs et même excellent à en croire la présidence française, dans les faits, aucun signe immédiat d'une quelconque avancée n'a pu être observé. Pis encore, Isabelle Labéry, puisque au moment même de redécoller ce matin, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a juste pris le temps de lâcher quelques déclarations suffisamment laconiques pour laisser entendre que la balle n'était plus franchement dans leur camp pour aider à faire avancer la paix.
Au pied de son avion sur le tarmac de l'aéroport du Bourget, Marco Rubio souffle le chaud et le froid.
Je pense que le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne peuvent nous aider à nous rapprocher d'une solution à faire avancer les choses. Par ailleurs, je voudrais rappeler qu'une partie des sanctions contre la Russie, une bonne partie, vient d'Europe. Donc les Européens vont devoir s'impliquer d'une manière ou d'une autre. Tout se passe en Europe, c'est leur continent et les puissances européennes ont des intérêts dans ce dossier, nous le reconnaissons.
Le chef de la diplomatie américaine se montre ensuite beaucoup plus explicite. Ce qu'il dit, en gros, c'est que négocier la paix en Ukraine n'est plus le job numéro un des États-Unis. Donald Trump y a déjà consacré beaucoup de temps et d'énergie. Si ça traîne trop, on lâchera l'affaire.
Nous devons déterminer très rapidement, et je parle de quelques jours, si cet accord est réalisable dans les prochaines semaines. Et si c'est le cas, nous sommes prêts. Si ce n'est pas le cas, nous devons nous concentrer sur d'autres priorités.
L'agacement manifeste de Washington, qui a déjà pris pour cible Kiev et surtout Moscou en raison de ses promesses de trêve non tenues, se transforme aujourd'hui en injonction à l'égard des Européens. De nouveaux pourparlers dans ce format collectif inédit doivent avoir lieu à Londres la semaine prochaine.
Alors dans ce conflit, il est un pays qui appelle régulièrement à des pourparlers de paix sans jamais pour autant condamner la Russie, c'est la Chine. Pékin a même au contraire renforcé ses relations à la fois économiques, diplomatiques et militaires avec Moscou depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Au point que Volodymyr Zelensky accuse régulièrement le géant asiatique d'être impliqué dans ce conflit. La semaine dernière, Kiev avait annoncé avoir capturé deux ressortissants chinois qui combattaient au sein de l'armée du Kremlin. Et hier, pour la première fois, le président ukrainien a accusé la Chine de fournir directement des armes à Moscou, des accusations qualifiées ce matin et sans surprise d'arbitraires par le régime communiste qui dénonce une manipulation politique. Les précisions d'Éric Bigala.
C'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a lui-même porté l'accusation hier après-midi lors d'une conférence de presse à Kiev.
Nous avons reçu des informations comme quoi la Chine fournit des armes à la Fédération de Russie. Et nous sommes prêts à en parler en détail. Aujourd'hui, nous avons des informations de nos services de sécurité et de renseignements concernant la poudre à canon, l'artillerie.
Ce matin, la Chine, par la voix d'un des porte-paroles de son ministère des Affaires étrangères, démentait l'accusation, assurant que Pékin, je cite, « n'avait jamais fourni d'armes létales à aucune des parties au conflit ». Mais le président Zelensky est allé plus loin dans ses accusations, promettant d'autres révélations.
Je crois que nous pourrons en parler beaucoup plus en détail la semaine prochaine, spécialement à propos des données qui nous laissent croire que des représentants chinois sont impliqués dans la production de certains armements sur le territoire russe.
Les armements que la Chine aurait pu fournir à la Russie sont légions, notamment en artillerie. Beaucoup des canons produits par la Chine sont des copies de canons soviétiques, difficiles à distinguer de canons russes sur le terrain.
58 morts et plus de 100 blessés, c'est le dernier bilan de l'attaque menée hier par les États-Unis contre un port pétrolier au Yémen.
Sur des images diffusées tôt ce matin, une boule de feu éclaire la zone, se trouvent plusieurs navires, tandis que d'épaisses volutes de fumée s'élèvent au-dessus de ce qui ressemble à un incendie. Les victimes sont tous des employés travaillant sur ce site stratégique de Ras Issa, une attaque clairement destinée à s'en prendre aux sources économiques du pouvoir des rebelles houthis qui depuis plusieurs mois multiplient les attaques contre le trafic maritime en mer Rouge et contre les l'armée américaine accentue donc ses frappes sur instruction du président américain Donald Trump. Précision de Marwaman.
Frapper les Houthis au portefeuille, tel est l'objectif déclaré de Washington. C'est ce que le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le CENTCOM, a réaffirmé. Des bombardements qui ciblent prioritairement les centres économiques du pouvoir des Houthis, comme ce site pétrolier de Ras Issa, avec pour but d'éliminer les stocks d'hydrocarbures détenus par les rebelles yéménites alliés de l'Iran et ainsi assécher les sources de revenus qui financent leurs opérations militaires. Les États-Unis, qui ont désigné les Houthis comme organisation terroriste, les accusent d'avoir mis la main sur ce port situé au nord de Deida au détriment de la population civile qui ne bénéficierait pas de ses retombées économiques. Ces frappes font partie d'une vaste campagne de raids aériens lancée depuis le 15 mars dernier et qui font à chaque fois de nombreuses victimes parmi les civils. Donald Trump a maintes fois promis d'anéantir la milice yéménite dont les attaques en mer Rouge perturbent le trafic maritime international et menace la sécurité d'Israël, allié des États-Unis.
Le Hamas s'est dit opposé hier à un accord partiel de trêve avec Israël.
En revanche, le mouvement islamiste palestinien s'est dit prêt à un accord complet, incluant un échange de tous les prisonniers, mais aussi l'arrêt de la guerre, le retrait de l'occupation de la bande de Gaza et le début de la reconstruction. Aussitôt, le ministre israélien des Finances, figure de l'extrême droite, a réagi en appelant à intensifier les combats sur l'enclave. De nouvelles frappes ont coûté la vie à au moins 40 Gazaouis. Puis le gouvernement de Benjamin Netanyahu poursuit par ailleurs sa stratégie visant à rendre le territoire invivable en imposant toujours un blocus total sur l'entrée de l'aide humanitaire. Première dirigeante de l'Union européenne à se rendre à la Maison-Blanche depuis qu'a éclaté la guerre des droits de douane, Giorgia Meloni, la seule dirigeante des 27 invitée à l'investiture de Donald Trump, était de retour à Washington hier avec une mission délicate, infléchir la position américaine en matière de droits de douane et de commerce dans l'intérêt de l'Italie, mais aussi de l'Europe. Restait évidemment à convaincre le locataire de la Maison-Blanche que cela servirait également l'intérêt des États-Unis. En vain, la chef de la coalition ultra-conservatrice au pouvoir à Rome, laquelle partage pourtant un très large socle idéologique avec Donald Trump, est reparti sans avoir pu valoriser comme elle l'entendait ce pas de deux, comprenait faire varier de stratégie le milliardaire républicain. Alors cette relation malgré tout très spéciale devrait se poursuivre encore aujourd'hui avec l'accueil cette fois-ci à Rome par Giorgia Meloni du vice-président américain J.D. Vance. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Giovanni Orsina, directeur de l'école de sciences politiques de l'université Louis à Rome. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Avec cette double rencontre, donc hier à Washington et aujourd'hui à Rome, beaucoup s'interrogent sur le réel objectif de Giorgia Meloni. Agit-elle pour le compte des Européens ou bien, au contraire, a-t-elle l'intention de briser l'unité européenne pour défendre ses propres intérêts ?
Bon, cette rencontre sont des rencontres bilatérales entre l'Italie et les États-Unis, et ça veut dire que, bien sûr, Giorgia Meloni a rencontré Trump et va rencontrer Vance en tant que chef de gouvernement italien. Mais elle a été très claire et elle a été très attentive de ne pas ouvrir la possibilité d'une interprétation de cette rencontre comme des rencontres qui sont contre l'Union européenne. Elle a très clairement concordé beaucoup avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et cette rencontre, ce dialogue avec Ursula von der Leyen ont été très attentivement rendu public. Et je pense que aussi la rencontre hier avec Trump a été une rencontre dans laquelle Giorgia Meloni était très attentive de ne pas ouvrir la possibilité d'une interprétation de cette rencontre contre l'Europe et notamment sur la question du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Elle a été très claire.
Malgré tout, jusqu'à quel point Giorgia Meloni n'entretient pas une certaine ambiguïté entre l'Europe et les États-Unis, qui s'appuie notamment sur des positions idéologiques beaucoup plus clivantes ici en Europe, s'agissant par exemple de sa position sur l'immigration ou bien la lutte contre le prétendu wokisme.
Mais bien sûr, Giorgia Meloni est proche idéologiquement de Trump sur beaucoup de dossiers, notamment sur le dossier culturel, et ça c'est très clair. Meloni est une conservatrice, c'est la leader du conservatorisme européen, et bien sûr, elle utilise cette affinité avec Trump aussi comme une ressource politique. Mais Meloni a toujours joué le jeu européen très clairement. Et bien sûr, s'il y a une idéologie dans les États-Unis, est plus difficile de dire qu'il y a une idéologie en Europe. En Europe, il y a plusieurs idéologies et le conservatorisme n'est pas une idéologie centrale en Europe aujourd'hui, mais est une idéologie qui est représentée et qui est dans les gouvernements italiens, mais pas seulement dans les gouvernements italiens. Elle est proche idéologiquement de les États-Unis, mais il n'est pas loin idéologiquement de l'Union européenne, et j'ai démontré de vouloir jouer avec l'Europe. Bien sûr, il y a la possibilité de tensions futures, et ça c'est, je pense, une possibilité, mais aujourd'hui, maintenant, je pense qu'il a été très attentif de jouer les deux jeux en essayant de rendre les États-Unis et l'Union européenne plus proches et de ne pas utiliser ça.
Et de quoi va dépendre en revanche la solidité donc de cette unité européenne que vous décrivez dans les semaines à venir?
Mais sur les droits de douane, je pense qu'il y a une question très importante qui est institutionnelle, parce qu'on sait que les droits de douane sont négociés au niveau européen. Je pense que ça c'est une garantie pour tous que ces dossiers vont être traités au niveau européen. Et bien sûr, l'unité européenne plus générale, ça dépend de la capacité, je pense, des pays européens d'effectuer, d'avoir une convergence. Et je pense qu'une chose très importante serait le nouveau gouvernement allemand. Je pense que quand il y aura un nouvel gouvernement allemand, ça va être un protagoniste. Et après ça, on verra si l'Europe est capable de rester unifiée. Je pense.
Et on terminera sur cette question. Merci beaucoup, Giovanni. Donc Orsina, directeur de l'école de sciences politiques de l'université Louis à Rome, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
En attisant les incertitudes mondiales, la guerre commerciale lancée par Donald Trump a d'ores et déjà largement chahuté les marchés.
Hier, la Banque Centrale Européenne était appelée à réagir à cette nouvelle donne économique. Elle a finalement choisi d'annoncer une nouvelle baisse de son taux d'intérêt directeur. Une décision motivée par les vents contraires provoqués donc par le coût de la barrière douanière de base de 10% appliquée à tous les produits et 25% sur l'acier, l'aluminium et l'automobile. Autant d'assauts qui éloignent encore un peu plus l'espoir d'une relance économique sur le vieux continent. Or, il se trouve qu'en agissant de la sorte, eh bien la BCE fait très exactement ce que la Réserve fédérale, elle, refuse aujourd'hui à Donald Trump. Hier d'ailleurs, le président, qui n'a pourtant pas son mot à dire concernant la politique monétaire, s'en est pris vertement au patron de la Fed, allant jusqu'à menacer l'indépendance de l'agence. Et que dire à présent de la liberté académique aux États-Unis? Les républicains au Congrès américain ont annoncé avoir lancé une enquête sur Harvard, qu'ils accusent de violer les lois sur l'égalité, dernière fronde en date contre l'éducation supérieure destinée à imposer une hégémonie culturelle conservatrice. Quelques jours plus tôt déjà, le camp trumpiste avait tenté de mettre au pas la prestigieuse université en touchant à son exemption fiscale.
La jeunesse turque en première ligne de la contestation.
Après les étudiants, c'est au tour des lycéens de se mobiliser contre le pouvoir, plus exactement contre l'arrestation et l'incarcération du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, figure de l'opposition, mais aussi contre un plan de mutation des professeurs annoncé par le ministère de l'Éducation et qui concerne en priorité une trentaine d'établissements parmi les plus prestigieux du pays, majoritairement hostiles au régime.
Midi juillet, 44 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
On évoquait tout à l'heure la guerre tarifaire menée par les États-Unis. Eh bien, ce matin, les dirigeants syndicaux étaient reçus à Bercy pour évoquer les potentiels effets de la hausse de ces droits de douane sur l'emploi en France. Une réunion réclamée à corps et à cri par les organisations qui n'avaient pas été conviées au Conseil national de l'industrie organisé il y a quelques jours au ministère de l'économie pour tenter d'élaborer donc une position française.
Les revendications des contrôleurs de la SNCF appelés à faire grève pour le pont du 8 mai ne sont pas légitimes.
Déclaration ce matin du ministre des Transports Philippe Tabarot qui estime que les contrôleurs ne sont pas les plus maltraités au sein de l'entreprise. Chloé Geffroy, bonjour.
Bonjour.
Parmi les revendications des syndicats, on trouve notamment les changements d'emploi du temps jugés trop nombreux. Un point sur lequel, Chloé, la direction de la SNCF Voyageurs dit avancer avec les syndicats.
Oui, c'est un logiciel informatique qui est au cœur des revendications mis en place il y a un an. Cet outil SCORE permet concrètement à un contrôleur SNCF d'accéder en ligne à son emploi du temps et d'être à jour sur ses horaires. Actuellement, si un contrôleur est bloqué, par exemple, sur une ligne parce que le train est à l'arrêt, c'est un agent de réserve qui est appelé sur le terrain. Mais avec ce logiciel, plus besoin de solliciter qui que ce soit, comme l'explique Julien Trocaz, secrétaire fédéral Sudrail.
Aujourd'hui, on supprime ces moyens supplémentaires pour être efficace et pour être réactif. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, ce qu'on appelle, nous, désorganiser, par exemple, une journée de travail d'un contrôleur ou d'une contrôleuse pour qui compense le manque de personnel qu'il peut y avoir.
Problème, ces changements de planning sont jugés trop imprévisibles par les contrôleurs qui apprennent parfois 48 voire 24 heures à l'avance qu'ils ne travailleront pas très tôt le matin mais plutôt très tard le soir. Une organisation chamboulée, pointée du doigt par Sudrail, la coupe est pleine, martèle Fabien Villedieu, secrétaire fédéral du 3e syndicat de la SNCF. Comment voulez-vous planifier un restaurant avec votre femme ou prévoir d'aller chercher vos enfants à l'école, je le cite. Un ras-le-bol des syndicats qui rappelle aussi que les horaires de travail des contrôleurs sont de base tout le temps décalés et qu'il n'existe pas de télétravail dans ce métier. Ce qu'ils veulent garder, le système actuel, et renforcer les moyens humains. Face à la menace d'une grève la semaine du 8 mai, la SNCF promet de prendre en considération les critiques, mais la conciliation semble difficile. Avec ce logiciel, l'entreprise ferroviaire souhaite avant tout faire des économies.
Merci Chloé, j'ai froid.
Ils sont près de 400 auteurs et autrices de BD à menacer de boycotter le prochain festival d'Angoulême.
Une pétition a été lancée hier par deux collectif qui demande à l'association propriétaire de l'événement de dénoncer son contrat avec le prestataire privé qui organise le festival depuis 2007. Alors pourquoi? Tout d'abord parce que son délégué général est régulièrement contesté sur fond d'accusations de sexisme et de management toxique, mais aussi parce que le journal Le Monde s'est fait récemment l'écho d'un projet de fusion entre l'association et cette société privée. Chloé Leprince, bonjour.
Bonjour.
Alors cette pétition est plutôt rare dans l'histoire du festival, mais elle s'inscrit malgré tout, Chloé, dans la continuité de la crise de gouvernance qui agite la manifestation charentaise depuis sa dernière édition.
Oui, alors effectivement, déjà plus de 400 noms de la BD qui appelaient à boycotter l'édition de janvier 2026 dès hier au lancement de la pétition. Mais ils étaient 865 signatures il y a 20 minutes seulement. Défier Angoulême, festival hégémonique, quand on fait de la bande dessinée, ça ne fait plus aussi peur, car quelque chose a changé depuis les débuts du MeToo BD il y a 2 ans. La mobilisation contre le sexisme d'un festival accusé depuis plusieurs années de négliger les autrices ou de valoriser les auteurs masculinistes a fait tache d'huile. Entre-temps, l'éviction d'une employée du festival après qu'elle avait dénoncé un viol en janvier dernier a débouché sur une enquête de l'inspection du travail pour licenciement abusif et discrimination. Et alors que le renouvellement du contrat avec son prestataire 9e art est à l'ordre du jour, sans aucun appel d'offres pour l'instant pour ouvrir le festival à la concurrence, eh bien les auteurs, les autrices posent en fond une question: à qui appartient Angoulême? Car ils sont de plus en plus nombreux à estimer que les auteurs, les autrices sont relégués en marge d'un festival de plus en plus toxique mais aussi de plus en plus commercial qui résiste aux mobilisations du secteur pour un monde de la BD plus égalitaire, plus éthique. Terreur graphique, dont vous pouvez retrouver des dessins dans Libération par exemple et qui sort pourtant un album chez Casterman en janvier prochain, justement au moment d'Angoulême, est un des signataires de l'appel au boycott. Je l'ai joint ce matin par téléphone.
Qu'on le veuille ou non, même si on trouve ça maintenant foire à la saucisse, c'est le plus fréquenté, c'est le plus visible, et qui est cette personne qui s'accapare ce festival, qui soit jamais d'accord avec l'évolution de la bande dessinée aussi. Ça n'intéresse pas la bande dessinée indépendante. On a toujours été des prestataires de services, non ? Il me semble, dans ce festival, on est là pour faire des dédicaces et pas grand-chose d'autre, quoi, en vrai. La seule place qu'on nous donnait ces dernières années, c'est de pouvoir voter pour un grand prix, quoi. Même ça est remis en question. Parce que le résultat n'a pas convenu, alors que nous, on est ravis, parce que c'est ça, la bande dessinée.
Alors, ce choix dont parle Terreur Graphique, c'est Anouk Ricard, grand prix du jury 2025. Elle aussi signe l'appel à boycotter Angoulême si la gouvernance ne change pas. 9e art, la société prestataire aux manettes du festival depuis 18 ans, pourrait rempiler pour 10 ans encore par tacite reconduction si l'association ne dénonce pas le contrat cette année. Dans la presse, l'association a souvent plaidé pour ne pas déstabiliser Angoulême, un festival financé pour pas loin de la moitié de son budget par de l'argent public.
Merci Chloé Leprince. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, marqué par l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui abordera la Bretagne. Le ciel se couvrira progressivement sur la moitié nord. En revanche, le soleil résiste au sud. Quant aux températures, elles seront comprises entre 11 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Caroline Desrosiers. À 18h, vous avez rendez-vous avec Julie Paco pour le prochain journal de la rédaction.